Et je commence avec une petite histoire. C'est un homme qui avait l'habitude d'arriver chez lui le soir saoul. Il était ivre. Puis quand il arrivait, il tombait dans son lit, tout habillé. Et puis là, il s'endormait. Puis là, il se mettait à ronfler, mais pas ordinaire. Et là, sa femme n'en pouvait plus. Était incapable de dormir, était épuisée et est allée voir le pasteur pour demander conseil. Qu'est-ce que je peux faire pour l'arrêter de ronfler? Hein? Et réunion du conseil, et puis il y avait un médecin dans l'assemblée, puis ils ont délibéré, ils ont pensé, puis ils sont arrivés avec une solution. Ils ont dit: attache-lui le nez avec un ruban. Fait qu'il a dit, bon, rien à perdre, hein? Fait que le gars, il arrive le soir, tombe dans son lit, puis il s'endort, puis il se met à ronfler. Délicatement, il vient y attacher le nez avec un beau ruban, là. Ça marche! Ça marche! Elle dort comme une marmotte, on dit. Hein? Comme un bébé. Et puis, elle se réveille le matin tout en forme, puis extraordinaire que ça marche. Le mari se lève, puis elle lui dit, « Bon, c'est quoi tu as fait encore hier, là? » Fait que le gars, il regarde ses habits, il se regarde dans le miroir, et il dit, « Bien, il dit, je pense que j'ai gagné un concours. » Hein? Il avait un beau ruban sur le nez. Il pensait qu'il avait gagné un concours. Et quelle est la morale de cette histoire? Oh, il y a une morale. Hein? La morale. La sainteté, c'est pas juste un beau ruban. Une décoration qu'on met sur le péché. Ouch. Hein? On a vu... avec la lumière, hein, c'est... Oui, c'est bon. Je suis rendu là. Ouais. On voit pas beaucoup, hein? Mais on a vu que dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la sainteté, on en parle à l'indicatif présent. Hein? Nous sommes sanctifiés, et il parle de ceux qui sont sanctifiés. Ça, c'est un mode d'indicatif présent. Donc, c'est une réalité présente. On voit aussi qu'on en parle comme au passé. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. On en parle comme quelque chose qui s'est passé dans le passé. On a vu aussi que c'est employé à l'impératif. Il y a un commandement, il y a un impératif qui nous dit « soyez saints ». Soyez saints dans toute votre conduite. Et on a un futur aussi, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Alors, la sainteté, ça se conjugue à tous les temps dans le Nouveau Testament. Et on a l'histoire de Jésus, dans Jean 13. Vous vous souvenez de Jésus qui lave les pieds de ses disciples? Souvenez-vous de la phrase qu'il a dite? On l'a écrit là, mais je ne sais pas si on le voit. Il y a Pierre, Jésus, il se met à genoux devant ses disciples. Il commence à laver les pieds de ses disciples. Et quand ça arrive à Pierre, qu'est-ce que Pierre dit? « Hey, non, pas moi, Seigneur! » C'est moi qui devrais faire ça, hein, qui devrais être ton serviteur. Puis là, le maître devient celui qui lave les pieds. C'était une tâche vraiment humble, à genoux. Hein? Voyez-vous, Jésus à genoux, à nos pieds ce matin? En train de nous laver les pieds, qu'est-ce qu'on dirait? Oh, Seigneur, je pense que on devrait changer de place. C'est un peu le réflexe de Pierre. Mais le Seigneur, il dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras plus de communion avec moi. Et là, tout de suite, Pierre réplique, dans ce cas, ne me lave pas seulement les pieds, mais les mains, la tête, lave-moi au complet. Et la réplique de Jésus, c'est assez fort. Elle dit, celui qui s'est baigné, celui qui a pris un bain, Hein? Il est entièrement pur. Il n'a plus besoin de se faire laver, sauf les pieds. Or, vous, vous êtes pur. Jésus est en train de dire à Pierre, c'est une métaphore, c'est une image qui dit que Pierre était déjà pur parce qu'il avait accepté Jésus comme son sauveur. Alors, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur sont purs. On a pris un bain, on l'illustre par le baptême, hein? Quand on se fait baptiser, on prend un bain, on est purifié, on montre aux gens qu'on a été purifié de nos péchés et on en ressort pur. Mais c'est intéressant, il dit, on n'a plus besoin de se faire laver sauf les pieds. Parce que quand on marche dans le monde, lorsqu'on se promène dans le monde, qu'est-ce qui arrive? À l'époque, c'est en sandales, là. Alors on ramasse la poussière. Alors, une belle métaphore, une belle illustration, je trouvais, pour la sainteté. Oui, on est entièrement sanctifié dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais quand on marche sur la terre, il y a des bonnes chances qu'on se salisse les pieds encore, hein? Même si on est saint. Et tout ce qu'on a à faire, c'est se laver les pieds, laver ces saletés-là qu'on ramasse au fur et à mesure. Quand je suis venu au Seigneur, il fait 17 ans, presque 50 ans, déjà, moi, j'étais tourmenté dans ma conscience. J'avais été élevé dans la religion qui mettait beaucoup d'emphase sur le péché. Autrefois, le péché existait au Québec, n'est-ce pas? Il n'y en a plus aujourd'hui, mais autrefois, le péché, c'était très, très fort. Et il y avait toutes sortes de rites, toutes sortes de choses que je pratiquais. J'ai tout pratiqué pour essayer de laver ma conscience, on peut dire, pour me débarrasser de cette culpabilité-là, de cette honte-là. Et puis même en sortant du confessionnal, j'ai-tu tout dit, j'ai-tu tout... Tu restes encore dans le doute, puis oh boy, j'étais vraiment tourmenté par la sainteté, justement, pour avoir la conscience en paix. Ça n'arrivait pas. Et un jour, j'ai rencontré le Seigneur, un chrétien qui m'a parlé du salut par la grâce, par le moyen de la foi, qu'on était saint aux yeux de Dieu. Waouh! La conscience apaisée. Hein? Et vous avez vécu la même chose aussi. Quand on a compris que Dieu nous a pardonné tous nos péchés, ça a changé complètement. Ça a changé complètement, mais c'est pas long, je me suis aperçu que j'avais pas fini avec le péché ou que le péché n'avait pas fini avec moi. J'étais encore capable de pécher, j'avais encore envie de pécher, puis j'avais encore l'habitude de pécher. Même si je venais d'accepter le Seigneur, laver, purifier mes péchés pardonnés, et puis je vivais dans un monde avec plein de tentations, plein de convoitises, plein de... Hein, c'était appétissant, c'était attirant. J'étais aux Beaux-Arts à Montréal dans le temps des hippies, là. Vous pouvez vous imaginer ce que ça avait l'air comme morale ou comme... Je nageais là-dedans, là. Alors, et je ne savais pas à l'époque que j'avais affaire à des esprits impurs, des esprits méchants aussi. J'ai appris ça beaucoup plus tard. C'était pas juste moi, c'était pas juste ma chair, pas juste le monde. Mais il y avait des esprits méchants qui avaient la porte ouverte avec ces tentations-là qui venaient nous... Alors, j'ai compris assez vite que devenir chrétien, c'est entrer en guerre. Hein? Il y a une guerre, il y a une lutte spirituelle à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur d'un enfant de Dieu lorsque j'accepte le Seigneur. Et on est bien intentionné au départ, on ne veut pas pécher. Et j'avais une bande dessinée une vieille bande dessinée qui disait ceci à peu près. C'est une dame qui avait décidé de se mettre à la diète. Et puis, elle était bien convaincue, elle était décidée, c'était bon pour la santé. Et puis, un petit dialogue intérieur qui commence. Alors, elle dit, « Bon, je vais aller prendre une marche. » C'est bon pour la santé aussi. Mais elle dit, « Je ne passerai pas devant le dépanneur. » Et quand elle arrive devant le dépanneur, ben, elle dit, « Ouais, je pense que j'ai besoin de lait. Je vais passer devant, mais je n'entrerai pas dans le dépanneur. Mais là, j'ai besoin de lait. Fait que là, oui, je vais entrer dans le dépanneur. Mais je n'irai pas dans l'allée des chocolats, des chips et des cochonneries. Hein? Je vais juste les regarder. J'y toucherai pas. Hein? » Et là, elle passe dans l'allée des chocolats. « Ah, ben, je peux l'acheter, au moins l'acheter. Hein? Et puis, je ne l'ouvrirai pas. » Ben, je peux bien l'ouvrir. Je vais juste le sentir. Et là, elle se met à sentir. Puis, ben, non, je ne vais pas y goûter. Je ne peux pas, j'y goûte. Mais juste un. Hein? Juste y goûter à un. Et elle y goûte. Mais je vais juste y goûter. Je ne mangerai pas. Je ne mangerai pas. Finalement, c'est à finir le sac. Hein? À manger le sac au complet. Et ça ressemble au combat, peut-être qu'on part bien intentionné, puis on va avoir la victoire sur telle chose, et puis, connaissez les grenouilles, hein? C'est intéressant. Les grenouilles peuvent se faire cuire, mourir dans l'eau bouillante sans s'en rendre compte. Alors, elle commence, dans une bouilloire qui est dans l'eau froide, elle est très contente. Et puis là, on augmente la chaleur. Là, c'est plus confortable, c'est plus agréable. Puis là, ben, la grenouille, elle devient faible, elle s'endort dans son confort, dans sa sécurité. Et là, elle n'est plus capable de réagir. Et elle meurt ébouillantée. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Hein? Alors, subtilement, c'est subtil, c'est hein, pernicieux. Comment on peut ne plus être sensible au péché? La grenouille n'était plus sensible à la chaleur, elle était plus sensible au feu. Et c'est possible que on perd cette sensibilité-là en cours de route, qu'on s'habitue, autrement dit, à telle mauvaise habitude, à un mauvais caractère ou à tel péché qu'on sait qu'on ne devrait pas faire, mais toutes sortes d'excuses comme la madame. Alors, il y a « Wow, trop hot ton piercing! » Ferme-la. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est fait prendre. Hein? Le poisson s'est fait prendre. Et ça se peut que nous aussi, plus ou moins consciemment, on est mordu à l'hameçon et le diable nous traîne par le bout du nez avec notre dépendance ou avec notre péché, un petit péché mignon peut-être. Hein, les chrétiens ne font pas des gros péchés, mais on peut en avoir des petits. Et Paul décrit ce phénomène-là. Il exprime bien l'impuissance d'un être humain, on pourrait dire, qui ne connaît pas le Seigneur dans Romains 7. Je pense qu'il parle d'un homme qui veut bien faire, veut bien suivre la loi de Dieu, mais qui est laissé à lui-même. Il dit, « Misérable, on pourrait traduire « malheureux que je suis », qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de cette chair qui est habituée, qui désire pécher? Hein? Ça va-tu finir un jour que j'aurais même plus envie de pécher? » Et la réponse est non. Et même on pourrait dire, les plus grands saints, les plus grands hommes de Dieu vont avouer que Hein? Il dit, nous bronchons. C'est Jacques, là. Jacques, c'est le plus saint des saints, là. C'est hein? Quand vous lisez l'épître de Jacques, là, c'est la plus tough pour les chrétiens, ça. Il ne mange pas ses mots, puis il brasse pas mal. Il dit, nous bronchons tous, nous commettons des fautes ou des erreurs de plusieurs manières. Nous bronchons tous, Jacques inclus. Et Jean lui dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, on connaît ça, hein? Si nous prétendons être sans péché, comme dans une autre version, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est point à nous, on fait Dieu menteur ailleurs. Alors, Jean dit, on dit qu'on est rendu parfait, là, et Paul dit la même chose, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le suivre. Alors, même ces grands saints-là n'ont pas atteint, n'ont pas expérimenté, on peut dire, la sainteté qu'on a déjà en Jésus, on ne l'a pas expérimenté en pratique dans notre vie de tous les jours. Mais ça ne veut pas dire que si on branche de plusieurs manières, puis qu'on pêche, que ça nous donne une liberté ou une licence ou une excuse pour pécher. Une bonne nouvelle pour le croyant, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Jean dit, quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Littéralement, dans le grec, là, c'est ne pêche pas. Ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Je vous pose la question. C'est quoi ça? C'est contredit. On bronche tout de plusieurs manières, et puis on n'a pas atteint la perfection, donc, si je dis que je n'ai pas péché, je mens. Et dans Jean, il dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un a une piste de solution? C'est en partie, c'est vrai, mais je pense qu'il parle de la pratique du péché. Ouais. Ouais, c'est bon. Une différence entre tomber dedans, mais continuer à le pratiquer. Ouais. C'est ça. Il y a la chair stupide, puis il y a un nouveau cœur, puis là, il y a comme un combat entre les deux. Oui. C'est bon. Mais j'irai avec ce que l'acteur vient de dire. Je pense qu'il ne pêche pas de façon. C'est pas de façon absolue qu'il ne pêche pas. Parce qu'on l'a vu, ça n'existe pas. Hein? Qu'un soit quelqu'un qui ne pêche pas, jamais. Hein? Si on est marié, là, ça ne marche pas. Hein? Je pense qu'il n'y a personne, il n'y a pas un chrétien digne de ce nom qui pêche consciemment, délibérément et indéfiniment, qui pratique le péché. C'est une chose de tomber dans le péché, et c'est une autre chose de le pratiquer délibérément et indéfiniment, rester dans ce péché-là. Je pense que Il y a une petite nuance à faire là. Il y a l'enfant de Dieu, il n'est pas comme la grenouille. Il est sensible au péché. Celui qui n'est pas de Dieu, il a développé une insensibilité au péché. Il va trouver toutes sortes d'excuses. Notre gars qui est en dessous, là, il a toutes sortes d'excuses. On peut excuser le péché. Mais un enfant de Dieu, il a une conscience qui est sensible, qui est éveillée. Et quand il fait quelque chose de mal, quand je fais quelque chose de mal, il y a quelque chose en dedans de moi-même qui brûle, là. Hein? Je ne suis pas content. Je ne suis pas heureux. C'est impossible d'avoir la paix, une paix profonde, de vivre loin de Dieu, sans Dieu, puis être en paix. Non, il faut se geler en quelque part. Il y en a un qui s'est gelé pas mal, qui s'appelait David. Hein? Dans le psaume 32. Y a-tu un plus grand... quelqu'un qui était plus proche de Dieu que David dans l'Ancien Testament? Hein? L'homme selon le cœur de Dieu. Je pense que c'est un des seuls, ou à peu près, à qui Dieu a dit ça. Un homme selon le cœur de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'homme selon le cœur de Dieu? Il est allé coucher avec Bathsheba, il est tombé en amour avec Bathsheba. Puis pour se sortir du scandale, on peut dire, pour apaiser sa conscience, il est allé envoyer Uri, son mari, se faire tuer au combat, voir la mariée. Il a tombé. Hein? C'est-à-dire qu'il a tombé, puis il a tombé bas. Puis c'est incroyable que Bathsheba, c'est la mère de Salomon. Elle est vraiment incroyable. Hein? La grâce, la miséricorde de Dieu, c'est incroyable. Mais est-ce que David est resté là-dedans? Hein? Heureusement, on lit dans le même psaume. « Je t'ai fait connaître mon péché. » Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. C'est vrai, je suis incapable de ne pas pécher autant que je voudrais, mais à tout moment, n'importe quand, je peux retrouver la sainteté en Jésus. Je peux être lavé, purifié de ce que je viens de faire, de ce que je viens de dire. Comment on fait ça? Comment on fait pour expérimenter cette sainteté-là? Mais premièrement, de la mettre en pratique, de la désirer, résister à toutes ces tentations, avoir la victoire là-dessus, on est appelé à ça. Hein? Comme Pierre, il dit, « Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irrépréhensible dans la paix. » Appliquez-vous, hein? Faites tous vos efforts pour expérimenter la sainteté. Tu sais, je mets un pas en avant, puis là, Seigneur, ce que je fais là, c'est pas ce que dans ma chair j'aurais fait. Hein? Seigneur, je prends cette décision-là de ne pas faire telle chose parce que je suis fier d'expérimenter la sainteté, de marcher dans la sainteté. Hein? Si tu es habitué de sacrer, de blasphémer, non, tu te fermes là, hein, tu te la fermes, puis tu te mets à louer le Seigneur en plein milieu de l'épreuve. Hey, le diable, il déteste ça, il n'aime pas ça. Ça s'apprend, marcher dans la sainteté. Peu importe notre combat, peu importe notre lutte, on peut choisir à tout moment de faire le pas puis de dire non. Moi, je choisis d'obéir au Seigneur. Je choisis de marcher dans la sainteté et je ne me laisse pas envahir ou absorber ou dans cette chose-là, cette pratique-là. Alors, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous sommes appelés, c'est notre mission sur terre. On est appelés à se sanctifier, à être saint, à pratiquer la sainteté. Il nous veut pur et saint comme lui. Alors, première des choses, oui, on peut choisir de marcher dans la sainteté à chaque pas que je fais. Je dis, Seigneur, lorsque je fais là, hein, c'est pur, ce pas-là, il est pur. Et waouh, ça développe une image de soi, ça développe, une fierté et aussi une puissance de dire, hey, je suis capable. Et il y a cette chose-là, mais qu'est-ce qui arrive si je tombe? Qu'est-ce qui arrive si je m'enfarge puis je tombe dans le péché dans lequel je ne veux pas tomber? On connaît très bien ce passage-là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Hein? Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Alors, le principe, c'est, oui, ça va arriver, même aujourd'hui, que je vais pécher. Et ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est, qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais avec cette parole-là qui sortit de ma bouche, qui était méchante, cette pensée-là que j'ai eue qui était impure, ou cette idée-là d'aller voler ou de faire du mal à quelqu'un. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si vraiment on a tombé dedans, si on l'a pratiqué, on le confesse. On peut, le plus tôt possible, plus on attend, plus ça va être difficile. Et on risque de l'oublier. Mais la culpabilité reste là. Et là, je suis pris avec un esprit de culpabilité. Alors, on peut pratiquer ça. Oui, je vais pécher, mais je peux le régler pas à pas. À chaque pas que je fais en dehors de ce que Dieu veut, Seigneur, tout de suite, je te demande pardon, et Seigneur, je reçois ton pardon maintenant. Je suis lavé, purifié de ce péché-là. C'est comme la vie chrétienne, ça peut avoir l'air de ça. Péché, c'est comme... le mot péché, ça veut dire dévier. On a dévié de la route. Alors, ça se peut que on prenne le champ, on est dans la boue, on ne peut plus bouger, on est pris là. Et on va dire, OK, je ne peux pas rien faire, c'est plus fort que moi, je ne suis pas assez fort. On abandonne et puis on se met à vivre dans notre Volkswagen. On a une automobile, on a une nouvelle vie, un nouveau cœur, mais il est pris dans la boue. Et puis on s'installe, on s'accommode, on se résigne, et ça devient ma façon de vivre. Ma vie chrétienne ressemble à ça. Plate, triste. Tout devient triste. Lire sa Bible, Parler du Seigneur aux autres, qu'est-ce que j'ai l'air moi-même? Toute la culpabilité, puis tout le reste. Fait qu'on se contente de vivre dans la boue. Mais il y a une compagnie qui dépanne, la dépanneuse. Ça s'appelle Confession incorporée. Juste un appel, là, c'est encore plus rapide que le CAA. Tu fais venir la dépanneuse, puis sors de là. T'es pas obligé de rester là-dedans. C'est la dépanneuse qui peut venir te sortir de là. T'es pas obligé de vivre dans cette culpabilité, dans cette défaite, dans cette conscience qui est troublée, que tu penses que t'es pas à la hauteur, t'es pas bon, t'es pas bonne, t'es... Arc! Non, c'est pas ça que Dieu pense. Ça vient pas de Dieu, ça. Fais venir la dépanneuse au plus vite, puis écris-les, sors-les de toi ce que tu as sur le cœur. Écris-le, comme ça tu vas pouvoir le déchirer, tu vas pouvoir le brûler, puis recevoir le pardon de Dieu. Puis une fois que tu as reçu le pardon de Dieu, on repart. On retrouve la paix, la joie, l'amour du Seigneur. C'est ça la vie en abondance, c'est ça la nouvelle vie que le Seigneur a pour nous. On va prendre le repas du Seigneur. Quelle occasion extraordinaire de faire venir la dépanneuse, de confesser ce qu'on a sur la conscience, puis s'en débarrasser. Et expérimenter que je suis saint. Goûter à la sainteté. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on n'est pas tout seul là-dedans. On a le Saint-Esprit. Et il est où le Saint-Esprit? En nous. Si on pouvait comprendre, si on pouvait saisir. Il dit, ne savez-vous pas? il s'adresse à des chrétiens, là. Il dit, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si vous saviez que votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous seriez incapable de pécher. Incapable. Hein? L'Esprit est appelé saint plus que 100 fois dans le Nouveau Testament. Alors, c'est sa job principale. On n'est pas tout seul. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous rendre saints. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas tout seul pris dans vous, là. Tu as le Saint-Esprit dans l'auto. Et simplement qu'une petite prière. Oui, Seigneur, je veux goûter à ça, la sainteté. Seigneur, je veux goûter à ça, la sainteté. Avoir vraiment cette liberté-là de dire « yak » à ces cochonneries-là, puis de choisir la sainteté. Et il y a une promesse, on termine avec ça, que le Dieu de paix, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Pas beau, ça? Que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Toute une promesse. Hein? J'ai mis cette petite plante là, sur le bulletin. Là. Hein? On est comme cette plante-là. C'est Dieu qui a planté cette semence. C'est Dieu qui l'a fait croître. Puis c'est Dieu qui va l'amener à la maturité. Alors j'espère qu'on est encouragé ce matin de marcher dans cette sainteté-là. Ça, c'est la vraie vie. C'est la vie en abondance qu'on a en Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 23-24.